Bandaka sur Fond 3. Un Bandaka où les pygmées sortent des forêts et ils viennent en masse s'installer dans la ville province de Bandaka. Donc c'est un sujet que nous a proposé notre confrère Henri Lubundo Bokelou. Il est en Bandaka, nous allons le joindre. Bonjour Henri.
Oh, bonjour Nathalie, bonjour à nos auditeurs.
Alors Henri, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les pygmées ?
Par définition, les pygmées sont des hommes de petite taille qui vivent dans la forêt. Ils se nourrissent essentiellement des cueillettes et de la chasse. On trouve les pygmées en Afrique centrale, notamment dans les deux Congo, au Cameroun, au Rwanda, au Burundi. Quelques populations pygmoïdes sont établies en Asie du Sud-Est. Les tribus pygmées portent des noms divers selon les milieux. Les Batois à l'équateur, Bambouti dans la province orientale, les Bambenga au Congo-Brazzaville, etc.
Et d'où viennent donc les pygmées qui arrivent en masse en Bandaka ?
Nathalie, le problème de migration des populations ne date pas d'aujourd'hui. Pour répondre à votre question, je dirais que les informations recueillies renseignent que les pygmées qui sont en Bandaka sont les Batois venus des deux territoires voisins de cette ville. Il s'agit bien sûr des Batois du territoire de Bikoro établis le long de la Nationale 6 qui relie Mbandaka à Bikoro et ceux du territoire d'Ingende voisin au chef-lieu de la province de l'Équateur. Ainsi, ils arrivent en Bandaka soit par pirogue, soit à pied.
Henri, qu'est-ce qui explique cette migration des pygmées ?
Nathalie, cette migration peut s'expliquer par plusieurs raisons, notamment l'asservissement par les Bantous, la déforestation et la recherche d'une vie meilleure.
Vous parlez de l'asservissement, de la déforestation et de la recherche d'une vie meilleure. Mais alors comment est-ce que vous pouvez expliquer ces raisons ?
Concernant l'asservissement, il y a lieu de retenir que les Bantous ont assujetti les pygmées depuis qu'ils ont occupé l'espace actuel où ils sont établis, les reléguant dans la forêt. Depuis, ils les considèrent comme une main-d'œuvre qu'ils utilisent à moindre prix pour divers travaux. En plus, les Bantous considèrent les pygmées comme des sous-hommes. Ils ne mangent ni ne boivent ensemble avec eux. Les relations entre le pygmée et le bantou sont des relations entre un esclave et son maître. Les pygmées donc travaillent et produisent pour le compte de leur maître bantou. Témoignage de ce pygmée.
Bisona bango lokola tozala kanamboka, en tout cas bisona bango toli akapesa ni mokote. To banga bango atay to gamai, biso bango penda totoka to ko place mokote. Balobi tozaba twa, bisona bango to ko sala basanze palore yango wana bakomi konyokola biso atana leta.
Donc, d'après ce que dit le monsieur, il dit que eux, les pygmées et les bantous ne se mettent jamais à table ensemble pour manger. Ils les considèrent comme des véritables esclaves, n'est-ce pas Henri ?
Tout à fait, Nathalie.
Ça, c'est sur le plan de l'asservissement. Mais alors, sur le plan de la déforestation ?
Nathalie, sur le plan de la déforestation, il n'est un secret pour personne que la forêt équatoriale constitue pour les pygmées un milieu à la fois naturel de refuge, de sécurité et de survie. Actuellement, avec l'exploitation intensive de la forêt suite à la multiplicité des sociétés d'exploitation de bois, les agriculteurs bantous ont conquis de vastes étendues de la forêt sur lesquelles ils pratiquent l'agriculture sur brûlis au détriment des pygmées ne disposant d'aucun droit de propriété sur la forêt.
Henri, seule solution pour les pygmées, c'est de sortir en ville à la recherche d'une vie meilleure. C'est cela, n'est-ce pas ?
Comme la ville est un lieu où se développe un type moderne de vie sociale, les pygmées jadis asservis par le bantou quittent progressivement leur maître pour la ville de Mbandaka en vue de monter l'échelle de niveau de vie. Actuellement, les pygmées se marient eux-mêmes et non avec le concours de leur maître bantou. Ils s'achètent eux-mêmes leurs vêtements au lieu d'attendre que leur maître le leur achète. En ville, Nathalie, ils exercent plusieurs métiers. Ils sont pousse-pousseurs, porteurs, domestiques. Bref, ils exercent de petits métiers qui leur procurent facilement un peu d'argent qu'ils ne pouvaient gagner au village, ce qui leur permet de répondre aux exigences et aux épreuves de la vie.
Bon, en tout cas, on a quatre villes différentes, na konna mboka penda to mona ki passe. Mais le kula to komé en ville, son ebisi moi si nanga il faut somba savo, akosomba savo wana. Il faut ça la osomba ilambo il faut somba lamba wana. Ilambo mkundo pe latina yepe il faut na ça le fol na somba la. Na mboka tuka ba nyokola ki biso moyete, tika to ki mabango kuna papa.
Quand il parle de mokundo, c'est quoi Henri?
Donc Nathalie, c'est juste pour vous dire que donc en ville, ce que vient de dire ce pygmée, en ville, il y a quand même une différence parce que au village, ils ont beaucoup souffert. Hein. Maintenant qu'ils sont en ville, bon, si il demande à son épouse d'acheter ce savon, elle va bien sûr le faire sans problème. Ça, bon, c'est, j'ai dit, donc si il demande à son épouse d'acheter une pièce d'âme de son choix, cela va se faire facilement. Donc c'est un peu ça.
Ok. Henri, quelle est donc la conséquence de la migration des pygmées pour les bantous restés au village?
Comme conséquence, la main-d'œuvre devient de plus en plus difficile au village. Les produits agricoles se font de plus en plus rares parce que les principaux producteurs ne sont plus là. Beaucoup de bantous mongols avec qui nous avons eu l'occasion de s'entretenir regrettent le départ massif des pygmées vers Mbandaka, Nathalie.
Merci beaucoup Henri Lobondo Bokelou. Nous allons recevoir tout à l'heure notre invité, mais pour l'instant, je vous dis au revoir et on se retrouve très très bientôt.
À plus Nathalie.
Partout où vous êtes Ando, Aché, à Arihuara, à Aru ou encore à Kanyabayonga, Lubero, Tiangungu, partout à travers le pays, à l'Est. Vraiment, c'est des noms qu'on a appris, hein, qu'on a découverts grâce à la radio Okapi. En tout cas, moi, je n'en connaissais pas beaucoup. Merci de nous suivre. Vous êtes à Ngende, vous êtes à Gemena, vous êtes à Kungu. Eh bien, merci de nous suivre. Tout à l'heure, nous étions avec Henri Lobondo Bokelou, qui était lui à Mbandaka. Et nous allons recevoir Jean-Louis Efoloko, responsable de l'ONG Programme pour le développement intégré des pygmées. Bonjour, monsieur Jean-Louis Efoloko.
Bonjour, Nathalie.
Vous allez bien?
Oui, très bien, très bien. Je suis à Mbandaka, je vous suis depuis le matin.
D'accord. Alors, monsieur Efoloko, ma première question serait de savoir combien actuellement il y a des pygmées dans la ville de Mbandaka.
Dans la ville de Mbandaka, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est aussi aux environs de 20 000.
20 000. 20 000 qui sont déjà arrivés ou bien qui vivent déjà là-bas?
Qui vivent déjà là-bas, qui vivent déjà à Mbandaka. Parce que le fief même des pygmées se trouve dans les territoires d'Ingéndé et de Biko, et avec un petit foyer à Bolomba. Et le mouvement migratoire se fait continuellement entre les trois territoires pour arriver au centre de Mbandaka.
Et ça fait combien de temps qu'il y a cette migration des pygmées?
La migration était lente depuis des années, lorsque les pygmées venaient ici s'installer pour chercher du travail. Est-il que, au centre même de Mbandaka, dans le cité de Itengeleke, et sur la route de Bamania, vers Bukala, Bouandi, il y avait des pygmées depuis des décennies. Mais actuellement, il y a une grande affluence de pygmées qui viennent surtout de Likoro pour s'implanter à Mbandaka.
Mmh. Et depuis qu'ils sont là, puisque vous êtes vous-même responsable de cette ONG qui s'occupe de l'intégration des pygmées, est-ce que ces pygmées arrivent facilement à s'intégrer?
C'est un peu difficile, madame. On fait un effort depuis des années, ça fait 14 ans que j'ai commencé à travailler avec eux, et beaucoup de difficultés, c'est-à-dire beaucoup de sacrifices pour d'abord les comprendre, se mettre à leur niveau, parce qu'il est dit à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous naissons tous égaux, alors il faut se ramener à leur niveau pour essayer de les comprendre, sans quoi c'est difficile pour réussir.
Sont ramenés à leur niveau, c'est-à-dire que les pygmées ne connaissent pas beaucoup d'instructions, parce que là nous avons une question de M. Moussekwa Akindou qui s'inquiète et qui se demande s'il existe un pygmée licencié, et s'il existe, quel est son nom et qu'est-ce qu'il fait avec sa licence.
Oui, si je n'ai pas le nom, j'ai tout un professeur d'université qui est à Kinshasa, et j'ai quelques-uns ici, quelqu'un qui termine son graduat maintenant à l'ISNER, M. John Benani, qui est un partenaire, il dirige une ONG de pygmées, il collabore avec moi, M. John Benani, par exemple, ici à Mbandaka.
Mais quand vous parlez de l'intégration des pygmées dans votre programme, comment vous y prenez-vous? Quand ils arrivent, vous les accueillez, vous les dirigez, comment faites-vous?
Bon, puisque le premier programme problème des pygmées que j'ai constaté dans mon territoire Ingéndé et dans mon groupement des locaux où je suis allé rester depuis 1994, c'est que les pygmées un peu partout n'ont pas le droit de la propriété. Ce qui est prévu par la loi n'est pas appliqué chez eux, c'est-à-dire la population, les Nkundo, c'est-à-dire les Mongols qui se disent propriétaires, qui se disent maîtres, ne leur accordent pas cette facilité. Alors, pour accéder à ces forêts, c'est ce que nous avons fait comme programme, c'est-à-dire créer des champs collectifs, lesquels enseignent qu'on puisse travailler avec eux en communauté, dans la collectivité, pour qu'ils puissent bénéficier de ces droits-là, sachant très bien que les propriétaires terriens, qui sont les Nkundo, sont difficilement, acceptent difficilement ces gens-là pour leur céder les terres. C'est ça le problème. Et selon les enquêtes que nous avons menées en 1998, nous avons trouvé par exemple au village Nkoutou, dans le groupement de Bakala, vers Ingéndé, il n'y a plus de Nkundo, les pygmées sont restés seuls, ils sont à plus de 600 dans ce village-là, ils font des champs eux-mêmes.
Et les pygmées se sentent-ils rejetés? Est-ce qu'ils ressentent ce sentiment-là d'un rejet de la part des autres ethnies?
Ce n'est pas totalement un rejet, c'est en quelque sorte une barrière. Mais ce qui est là, les hommes Nkundo collaborent avec les hommes pygmées. Les femmes Nkundo collaborent avec les femmes pygmées. Mais le croisement n'est pas possible. C'est-à-dire, un homme Nkundo ne peut pas approcher une femme pygmée et un homme pygmée ne peut pas approcher une femme Nkundo. C'est ça ce qui est difficile.
Pourquoi? C'est des êtres humains pourtant.
Oui, mais justement, ce sont des habitudes séculaires qu'on nous raconte parce que on a travaillé, on a essayé de consulter plusieurs documents, même celui de Van Kerken qui a écrit sur le pygmée. On n'expliquait pas les causes. L'on prétend toujours qu'ils avaient été des esclaves, mais tel que moi je connais les pygmées, dans mon territoire, où ils sont environ à 55 000, ils ne sont pas esclaves, ils ne vivent pas dans les forêts. Depuis des décennies, les pygmées ne sont plus dans les forêts. Ils vivent, ils habitent au début ou au bout des villages, avec les Kundo, mais pas de mélange de maisons. Les maisons ne s'entrecroisent pas. Vous trouvez à l'entrée d'un village les pygmées, ou bien à la sortie d'un village les pygmées, ou bien dans une ruelle qui s'écarte un peu, mais ils ne sont pas dans les forêts.
Et en ce qui concerne la déforestation, aujourd'hui ils ont du mal, c'est une des raisons semble-t-il qui les pousse à sortir et à venir s'installer dans la ville. Quelles sont les mesures qui ont été prises à ce sujet?
Moi, pour ces mesures, j'ose croire qu'avec le nouveau code forestier, on va essayer de voir ce problème parce que d'abord, les pygmées vivent de la cueillette. Ils s'en vont dans les forêts, ramasser les feuilles, prendre les forêts, ramasser les chenilles, un peu partout, prendre les champignons, et ainsi de suite. Mais si la déforestation, il y a des arbres qui donnent les chenilles qui sont abattus, ils manquent de plus en plus leur essence, c'est-à-dire leur objectif, c'est-à-dire leur vie, de chercher quelque chose dans la forêt. C'est ça justement le plus grand problème.
Ok, d'accord. Monsieur Jean-Louis Efoloko, responsable de l'ONG Programme pour le développement intégré de Pygmées. On parle également d'une meilleure vie, c'est-à-dire une meilleure façon de vivre. Est-ce que finalement, quand ils arrivent en Bandaka, ils trouvent ce qu'ils cherchent?
Ouais, en quelque sorte, comme venait de le dire tantôt notre ami Henri Logondo, ils sont pousse-pousseurs, ils travaillent dans, comme domestiques, ils sont des porteurs, et j'ose croire, et quand j'observe, ils s'améliorent un tout petit peu dans l'habillement, par rapport à ceux qui sont restés au village, ils s'améliorent dans l'habillement, là je le constate. Bien sûr, c'est pas tout excellent, mais ils s'améliorent dans l'habillement, ils s'améliorent aussi un peu dans le comportement.
Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être un message à leur lancer, qui vous suivent en ce moment.
Oui, s'il y a des pygmées qui me suivent, je souhaiterais qu'ils rejettent un peu ce complexe-là. Très souvent, nous faisons un effort de scolarisation, mais les enfants finissent par quitter. Il y a des déperditions scolaires en cours de route, les enfants quittent les écoles. Et quand vous les appelez dans les réunions, ils disent qu'ils sont maltraités, qu'ils sont écartés, mais nous souhaiterions marcher ensemble. Comme moi, personnellement, je suis là pour l'encadrement des pygmées et l'encadrement des enfants. J'aime que les pygmées nous soyons ensemble, que nous travaillons ensemble. Et encore, mon combat, c'est qu'ils soient économiquement importants. S'ils n'ont pas droit, ils n'ont pas accès aux forêts, la capacité productive est diminuée et alors la productivité en pâtit aussi et nous avons moins de manioc, moins de maïs dans nos villages.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Efoloko. Je rappelle que vous êtes responsable de l'ONG Programme pour le développement et intégration des pygmées. Merci d'avoir répondu à notre question et à la prochaine.
Merci, Madame Nathalie. Je vous salue et je vous remercie.
Grand Likofu, Patrick Mangassa. Jacques Delo.
Papa, o salinga tuwa lelo bato bakamoyo, kuzoka o zala kafe na kotema ya kolinga, motema ya kotala tuwa, ya libanga pe o mama, ikanga na seka. Papa, lo pune linga na micho ya bato sale linga suwa Tutoka yo zala kape na mose meko yo kakapati Oye, konsara ka suwa Pia ebende ete uona kamwe yo Tutoka yo mse yo linga tanga
Oka kolo, se le kutsure le plus demande
Papa, na la kipa ki yo bonu gomu na tinga inde sopa e Yo ye koni nanga ite tango na botani yo Lelo koma kola nanga ita mbanyo Soka na kujabala
na kofi ya yo wa bina moke mae
docteur Kakirta
papa na kisa ki ulanga mokani sa ki na turiye mbamba pe fanga moke ya passion le logo sani ma benyu su bala ki ko salanga mbamba na za banyu so bila na yo
papa gabon.
Papa Tendaye, Bachona Mama Michi. Bon, tu
penses? Toi qui m'en
connais,
Sortant le patron, Edouard Molini, la Londres.